VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, à ce micro Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 15 mai 2023. Il est 19h30 temps universel, voici le sommaire. Au Sénégal, des heurts ont opposé les forces de l'ordre et les supporters d'Ousmane Sonko à Ziguinchor, dans le sud. Son procès pour viol doit s'ouvrir demain à Dakar. En RDC, l'armée affirme avoir arrêté une soixantaine de miliciens soupçonnés d'avoir tué une dizaine de ces éléments ce week-end dans l'ouest du pays. Frappes aériennes et explosions ont de nouveau secoué le Soudan après un mois d'une guerre meurtrière. En Tunisie, l'opposant Rached Khanouchi a été condamné à un an de prison pour apologie du terrorisme. Dans une dizaine de minutes, la Minute Éco, le Congo et le PNUD ont signé à Brazzaville un accord de 900 millions de francs CFA pour soutenir les PME et les sports. Yacouba Ouédraogo évoquera la finale de la Coupe d'Afrique de football des moins de 17 ans. Pour commencer, le journal. Au Sénégal, à la veille de l'ouverture du procès de l'opposant Ousmane Sonko, des heurts ont opposé ses partisans aux forces de l'ordre à Ziguinchor, la ville dont il est maire dans le sud du pays, et à Dakar, la capitale. Un policier, Assim Diédiou, est mort à Ziguinchor suite à un accident causé par un char du groupement mobile d'intervention de la police nationale, confirme un communiqué du ministre de l'Intérieur. À Dakar, la correspondance de Sedina Abagay.
Un policier mort est dénombré à Ziguinchor, mais aussi plusieurs blessés dans les rangs des forces de l'ordre et du côté des manifestants, dont certains dans un état grave, d'après une information donnée par l'agence de presse sénégalaise. Ces événements font suite aux violents affrontements qui ont lieu depuis ce matin entre les militants d'Ousmane Sonko et les policiers. Pour éviter une possible arrestation de l'opposant dans le cadre de son procès avec la masseuse Adissar, des centaines de militants se sont positionnés devant son domicile depuis plusieurs jours. Des barricades ont été érigés, des pneus brûlés, des pierres et cocktails Molotov lancés en direction des forces de l'ordre. Ces dernières ont riposté avec des gaz lacrymogènes et leurs blindés essaient depuis le matin de repousser tant bien que mal une foule de plus en plus nombreuse. Des troubles qui ont également touché Dakar en début d'après-midi, plusieurs quartiers de la capitale ainsi que des points stratégiques comme l'autoroute ont été barrés par des manifestants qui ont également brûlé des pneus obligeant les gendarmes et les policiers à intervenir. Pour rappel, la dernière arrestation de l'opposant Ousmane Sonko avait déclenché en mars 2021 de violentes manifestations qui s'étaient soldées par la mort de 14 personnes. Seydina Bagui pour VOA Afrique, Dakar.
En Tunisie, le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Rached Khanouchi, qui avait été arrêté en avril, a été condamné ce lundi à un an de prison pour apologie du terrorisme, selon des médias locaux. M. Khanouchi, 81 ans, a été condamné à l'issue d'un procès pour apologie du terrorisme à la suite d'une plainte l'accusant d'avoir traité les policiers de tyrans, selon les médias. Les États-Unis ont imposé ce lundi des restrictions de visa à plusieurs responsables nigérians accusés d'avoir tenté de saper la présidentielle du 25 février. Ces individus ont été impliqués dans l'intimidation des électeurs par le biais de menaces et violences physiques, la manipulation des résultats des élections et autres activités qui minent le processus démocratique au Nigeria, indique le secrétaire d'État Anthony Blinken dans un communiqué. Les États-Unis avaient félicité à l'époque le candidat du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubu, pour sa victoire. Le département d'État ne précise pas qui sont les responsables visés, désormais interdits de séjour aux États-Unis. En RDC, l'armée affirme avoir mis la main sur une soixantaine de miliciens Mobondo. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir tué et décapité le week-end dernier le commandant des troupes du secteur de Kwango ainsi que 11 autres de sa garde dans l'ouest du pays, Eddy Sango.
Plus de 60 miliciens ont été arrêtés et transférés à Kinshasa, où ils attendent un procès. Le porte-parole de l'armée, le général-major Sylvain Kingé, a indiqué à VOA Afrique que des renforts venus de Kinshasa ont tué une dizaine de miliciens. Ce week-end, les miliciens Mobondo, qui disent se battre pour l'ethnie Yaka, ont tué et décapité les commandants des troupes à Kwango et sa garde constituée des policiers militaires et des civils dans les villages des Bachongo, non loin des Kinshasa. Les commandants avaient refusé d'ouvrir le feu, tentant de négocier avec les miliciens qui ont par la suite attaqué les villages. Un couvre-feu a été instauré dans les Kwango. Ces miliciens sont transférés à Kinshasa et 15 autres arrêtés quelques mois plus tôt à Kwamout, dans la province de Maïndombe, ont été condamnés samedi par les tribunaux des garnisons des Bandundu à 20 ans de prison pour terrorisme. Plus de 300 personnes ont déjà été tuées dans ces affrontements entre Yaka et Teke depuis juin 2022. selon Human Rights Watch.
Le Kenya et la Somalie ont annoncé ce lundi un accord pour ouvrir en 3 points d'ici au 1er juillet leur frontière terrestre, officiellement fermée depuis 2011 en raison de l'insurrection des islamistes Shebab. Longue de 700 km, la frontière entre le Kenya et la Somalie a été officiellement fermée par Nairobi en octobre 2011 pour tenter d'endiguer les attaques des islamistes somaliens sur le sol kényan. Frappes aériennes et explosions ont de nouveau secoué le Soudan ce lundi, un mois après le début de la guerre. Le conflit entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les forces de soutien rapide, a fait près d'un millier de morts et environ 1 million de déplacés et réfugiés. Nathalie Barge.
À Khartoum, les raids aériens et tirs à l'artillerie lourde n'ont pas cessé depuis un mois. L'aéroport est détruit, les centres commerciaux ont été pillés et les administrations sont fermées. Au Darfour, 280 personnes sont mortes vendredi et samedi à El Geneina, selon le syndicat des médecins. Les habitants restent enfermés chez eux, des snipers tirant sur ceux qui s'aventurent dans les rues. Des maisons ont été entièrement détruites dans les bombardements. Les deux rivaux se livrent une guerre sans merci au-delà des tactiques militaires. Le chef de l'armée a entamé une purge au sein des forces de sécurité, de la banque centrale et des ministères. Il a annoncé le gel de tous les comptes bancaires des forces de soutien rapide qui ont amassé des richesses grâce aux mines d'or. En réponse, le général Daglo a promis dans un enregistrement sonore à son adversaire qu'il serait, je cite, « jugé rapidement et pendu sur une place publique ». À Jeddah, en Arabie Saoudite, les belligérants négocient une trêve humanitaire, mais ils se sont seulement entendus sur le principe du respect des règles de la guerre, renvoyant la question de l'arrêt des hostilités à des discussions ultérieures. L'ONU a annoncé aujourd'hui ses premières distributions de nourriture dans l'état d'Al Jazeera, où se trouvent la plupart des 500 000 déplacés de Khartoum. Des milliers de réfugiés entrent chaque jour en Égypte, au Tchad, en Éthiopie et au Soudan du Sud.
Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a salué ce lundi à Tunis l'effort significatif des autorités tunisiennes pour lutter contre la migration clandestine vers les côtes italiennes. Lors d'une rencontre avec son homologue tunisien Kamel Feki, M. Piantedosi a exprimé, je cite, sa pleine reconnaissance pour l'effort significatif déployé par la Tunisie pour garder ses frontières maritimes et terrestres, combattre les réseaux de passeurs, confisquer leurs bateaux et secourir les migrants en mer, selon un communiqué du ministère italien de l'Intérieur. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre fréquemment des tentatives de départ de migrants originaires en majorité des pays d'Afrique subsaharienne vers l'Italie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche avec 49,51% des voix contre 44,88% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, a annoncé ce lundi le Conseil électoral supérieur. Le deuxième tour se tiendra le 28 mai. Jean-Roger Billon.
Le président Erdogan a obtenu un score plus important, mais insuffisant pour l'emporter dès le premier tour, comme cela a été le cas lors des deux présidentielles précédentes. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, est néanmoins idéalement placé pour conserver son poste. Kemal Kılıçdaroğlu, candidat d'une alliance de 6 partis d'opposition, ancien fonctionnaire âgé de 74 ans, s'est dit confiant de pouvoir gagner au second tour. Il a promis de revenir en cas de victoire des politiques économiques plus orthodoxes et de ramener le pays vers son passé démocratique et laïque. Un troisième candidat, le nationaliste Sinan Ogan, a obtenu 5,2% des voix. Cette élection est déterminante pour savoir qui va diriger la Turquie, membre de l'OTAN, mais aussi quelle sera l'orientation politique et économique de cette puissance régionale de 85 millions d'habitants, notamment dans ses relations avec la Russie, le Moyen-Orient et l'Occident.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a confirmé ce lundi qu'il se réunirait demain mardi avec les chefs de file de l'opposition parlementaire, dont le patron de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour tenter de lever le risque d'un défaut de paiement américain. Le Congrès doit voter rapidement pour relever le plafond maximal d'endettement public, faute de quoi les États-Unis risquent de se trouver dans l'incapacité de faire face à leurs obligations et échéances financières. Les républicains s'y refusent tant que Joe Biden n'accepte pas de faire d'importantes coupes budgétaires. Et puis la Russie a indiqué ce lundi avoir fait décoller l'un de ses avions de guerre pour aller à la rencontre de deux avions militaires français et allemands au-dessus de la mer Baltique qu'elle accuse d'avoir voulu violer la frontière russe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Accra s'attend à ce que le FMI approuve une première tranche de prêt de 600 millions de dollars dès mercredi, ouvrant la voie à un décaissement d'ici une semaine, a déclaré le ministre d'État aux Finances, Mohamed Amin Adam. Une deuxième tranche de 600 millions de dollars devrait être approuvée d'ici décembre, le reste étant décaissé en tranches égales de 360 millions de dollars après des examens semestriels. Le ministère congolais des PME et de l'artisanat et le PNUD ont signé à Brazzaville un protocole d'accord de 900 millions de francs CFA pour accroître la contribution des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat à la création d'emplois, la croissance économique et l'éradication de la pauvreté au Congo, affirment les dépêches de Brazzaville. Terminons par le Caire qui a vendu pour 121,6 millions de dollars une participation de 6,5% dans Télécom Égypte, société contrôlée par l'État, a déclaré dimanche le ministère des Finances. La vente réduit la participation du gouvernement à 70% et donne la voie à un programme de privatisation dont l'Égypte a désespérément besoin pour honorer une série de dettes extérieures au cours des prochains mois.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Du football pour commencer, on connaît l'affiche de la finale de la CAN des moins de 17 ans en Algérie.
Oui, ce sera un duel de Lyonceau, Sénégal-Maroc. Les Sénégalais ont écarté le Burkina Faso, 5 tirs au but réussis contre 4, 1-1 à l'issue du temps réglementaire. En finale, ce vendredi, ils affronteront les Marocains, tombeurs au bout du suspense. Des Maliens également au tir au but, 6-5, 0-0 à l'issue du temps réglementaire.
Au niveau des clubs, on jouait les demi-finales alliées de la Ligue des Champions.
Le Wydad de Casablanca a été tenu en échec à domicile 0-0 par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, pourtant réduit à 9. Une supériorité que le tenant du titre n'a pas pu exploiter. Tout reste quand même ouvert en fin de semaine. En revanche, Al Ahly du Caire a presque lui assuré sa qualification pour la finale, la quatrième consécutive en allant dominer l'Espérance de Tunis. Chez elle, 3-0.
Basketball, les finales de conférence sont connues.
Trois ans après leur finale de conférence, dans la bulle anti-Covid d'Orlando, les Lakers de LeBron James défient les Nuggets de Nikola Jokic. Dans l'autre finale de conférence, le Heat de Jimmy Butler affronte les Celtics de Jason Tatum. Boston a écarté Philadelphie en play-off. Bagassi Koura.
Porté par 51 points record de Jason Tatum, inarrêtable, les Celtics ont terrassé 112-88 les Sixers de Joel Embiid, MVP éteint, pour allier leur troisième finale de conférence Est en 4 ans, où les attend, comme d'habitude, le Heat. C'est donc une belle rencontre électrique qui attend ces deux rivaux. Jimmy Butler et les siens sont prévenus, si cela était nécessaire, des ressources mentales dont savent faire preuve les Celtics, à l'image de Tatum, en grande difficulté lors des 3 matchs précédents et qui a fini par trouver la voie, d'abord à Philadelphie, puis sur cette ultime joute décisive durant laquelle il a marché sur l'eau, surfant sur une adresse redoutable, 17-28, pour établir un nouveau record de points marqué en NBA dans un 7e match, 2 semaines après la pointe à 50 unités de Stephen Curry à Sacramento. Le pivot camerounais Joel Embiid, 15 points et 8 rebonds, n'a pas répondu présent pour le match le plus important de la saison. Les Celtics qui ont empoisonné la vie de leur défense acharnée et rotative avec Al Horford en contreur attitré. Les Sixers pourront nourrir des regrets. Ils avaient cru réussir le plus difficile en remportant le match numéro 5 au TD Garden.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Moi, Madou Koumpa, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Mauritanie, l'opposition dénonce des irrégularités aux élections législatives régionales et municipales et demande l'annulation partielle du scrutin de samedi dernier. La Commission électorale nationale indépendante a de nouveau revu à la hausse le taux de participation qui a atteint 64%. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
Cette partie et coalition de l'opposition mauritanienne réunies en conférence de presse ont demandé l'annulation du vote de samedi dans la capitale Nouakchott et à Boutilimite, une ville religieuse située à plus de 150 km au sud-est de la capitale. Ils dénoncent en effet plusieurs irrégularités. Hamadi Sidi Mokhtar, président de Tawassul, le parti islamo-conservateur qui occupe la deuxième place dans ces élections selon les premiers résultats.
Peut-on accepter un bureau de vote sans liste complète des électeurs? Peut-on admettre qu'on ne remette pas les PV aux représentants des partis politiques? Est-il raisonnable de renvoyer des représentants de partis? Comment laisser des gens influents faire de l'achat de conscience devant le bureau de vote?
Après le dépouillement de près de 70% des votes au scrutin législatif régional et municipal, la défaite de l'opposition se dessine dans la capitale qui compte le plus grand nombre de députés, 21, et de communes, 9. Et le fait marquant, c'est que la deuxième commune de la capitale en termes de poids électoral, à savoir Arafat, bastion des islamo-conservateurs, pourrait tout simplement basculer dans le camp du parti au pouvoir, Al-Insaf. Le candidat du pouvoir à Arafat, Mohamed Mahmoud Ahmed Didou, prédisait déjà sa victoire lors de la campagne électorale.
Je vous le confirme, Arafat votera pour Al-Insaf.
L'opposition qui n'est pas présente sur l'étendue du territoire national misait beaucoup sur Nouakchott et sur les grandes villes. El-Heib Chersidati, journaliste et analyste politique.
La participation de l'opposition aux élections est très limitée. Elle ne dépasse pas le tiers des sièges au Parlement ni la moitié des communes. Et parfois, c'est une participation pas très rigoureuse.
Les premiers résultats venus de la diaspora donnaient de l'espoir à l'opposition qui mettait en difficulté le pouvoir. Mais au fur et à mesure que les résultats tombent, Al-Insaf creuse son avance et parfois loin derrière les islamo-conservateurs. Mohamed Diop, pour VO Afrique, Nouakchott.
Au Cameroun, une campagne annuelle est en cours pour encourager les familles à envoyer à l'école les enfants présentant un handicap. Par cette campagne, les autorités veulent aussi promouvoir l'éducation inclusive pour les enfants handicapés. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le Cameroun compte 70 écoles inclusives. Dans ces établissements scolaires, les enfants ayant des besoins spécifiques côtoient ceux qui ne présentent aucun handicap. C'est le cas à l'école spéciale et inclusive du Centre national de réhabilitation des handicapés à Yaoundé. Georges Martial, Tchametomo, est enseignant dans ce centre.
Dans ma classe, nous avons 11 élèves parmi lesquels 6 élèves vivant avec le handicap, 5 déficients auditifs et 1 élève avec une IMC. Les cours se distancent normalement en suivant les curriculums officiels. C'est au niveau de la transmission de savoir que ça différencie d'un enfant à un autre.
L'accès à l'éducation des enfants atteints d'insécurité motrice cérébrale, en abrégé IMC, est encore un challenge au Cameroun. les coûts de formation sont élevés et la prise en charge des enfants est parfois défaillante. Flore Ngassa est mère d'un enfant IMC et dirige une association de parents d'enfants IMC.
Le nombre d'enfants infimomoteurs cérébrales sont nombreux encore dans les maisons. Ils ne trouvent pas encore véritablement leur place. De par le fait que, quand on essaye de les amener à l'école, la majorité des enseignants, même s'ils sont formés, beaucoup n'appréhendent pas encore bien ce type d'enfant-là. Le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui a commencé est appréciable.
Lors du lancement de la campagne nationale pour l'éducation inclusive, le ministre des Affaires sociales a décrié le fait qu'au Cameroun, 9 enfants sur 10 en situation de handicap ont des difficultés pour accéder à l'école. Alice Kamga, présidente du réseau des femmes leaders, membre de la société civile.
Nous attirons vraiment l'attention des autorités et de l'État de pouvoir créer même des établissements scolaires adaptés à leur handicap. Parce qu'aucun enfant ne peut se développer en étant enfermé dans 4 murs. Il faut sortir, rencontrer les autres et pouvoir être comme ça accepté, jouer des pleins droits que la société nous offre.
L'une des solutions à l'éducation inclusive est la formation du personnel. Sur ce point, l'État a encore des efforts à fournir. Angelica Ambembi, directeur de la protection des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales.
Notre plaidoirie maintenant, c'est que l'État doit connaître le bienfait de ce partenariat. Les enseignants formés par le privé peuvent aussi bien éduquer nos enfants dans des structures publiques. En attendant que l'État forme beaucoup plus des enseignants spécialisés pour les enfants à besoins spécifiques. Dans cette campagne de sensibilisation, le ministère des Affaires sociales le fait avec le Cameroon Baptist Convention Health Services, qui est un partenaire privé, mais qui a aussi de bailleurs de fonds qui soutiennent aussi l'éducation inclusive. Je pense qu'avec le temps, que l'État aussi va connaître l'appui du secteur privé en matière d'éducation inclusive.
Selon le ministère des Affaires sociales, ce 2% des enfants handicapés sont scolarisés au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, la présence des hommes dans l'univers de la mode, de l'esthétique et de la beauté est de plus en plus visible. En effet, plusieurs salons de coiffure sont tenus par des hommes dans le district d'Abidjan. Le secteur de la coiffure pour dames, autrefois dévolu aux femmes, est de plus en plus investi par des hommes. Reportage de Delphine Boïs, notre correspondante à Abidjan.
Nous sommes ici à Ancré, 8e tranche dans la commune de Cocody, au marché Cocovico, où un palier est réservé à l'esthétique et à la beauté. On y trouve des salons de coiffure pour dames avec comme spécialité les tresses, les tissages et autres soins de beauté. Et ceux qui y travaillent sont des hommes.
J'ai demandé sur coiffeur, visagiste. Je fais spécialement les deux, les perruques, tissage. Je coiffe beaucoup les dames de 20 à 50 ans. Et je me sens à l'aise, donc franchement. J'ai appris, j'aime le métier et je suis fier de ça.
Escale à la Riviera Palmeraie, toujours dans la commune de Cocody, quartier où l'on trouve de nombreux coiffeurs pour dames. Nous avons rencontré deux d'entre eux qui disent exercer ce métier depuis plusieurs années. Hervé Touche, coiffeur professionnel dames et responsable de l'Institut Hervé Touche depuis 9 ans.
Nous, on fait les coupes d'âme parce que c'est une spécialité qui n'était pas répandue à Abidjan. On a opté de coiffer, de se spécialiser dans les coupes d'âme, vu que je savais bien, je sais bien faire quand même. Voilà, donc les coupes que nous faisons ici sont les coupes tendances et, voilà, qui sont d'actualité. Donc, plus les jeunes dames sont attirées.
En plus de la coiffure, Hervé Touche propose un autre attrait de beauté à sa clientèle.
On fait les ongles, voilà. Peut-être que vous le voyez. Enfin, la manucure, pédicure, tout, voilà. Donc, alors, j'ai du personnel qui voit de la même façon que moi la coiffure d'âme. C'est un métier comme tout autre métier. Alors, nous y sommes.
À l'opposé de la voix, Jules Connet est dans la profession depuis 6 ans. Lui propose à sa clientèle une gamme complète de soins de beauté.
Je fais un peu de tout, que ce soit coupe de cheveux, tissage, les coiffures de mariage, les maquillages, puis les soins corporels aussi.
Et certaines femmes préfèrent se faire coiffer par des hommes pour diverses raisons. Fatim Sangaré est une habituée de l'Institut Hervé Touche.
J'aime me dresser chez les hommes parce que les hommes, ils sont accueillants, souriants. Ils sont toujours aux petits soins.
Comme on peut le constater, coiffure et esthétique riment aussi avec les hommes. Ils sont devenus des pions essentiels dans les soins de beauté des femmes à Abidjan. Reste donc à chaque femme de faire son choix. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, l'administration Biden affirme qu'elle ne fait pas obstacle aux demandeurs d'asile. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a souligné plutôt qu'il existait un moyen légal et régulier pour arriver aux États-Unis. Mise en perspective avec Veronica Balderas Iglesias, récit Jean-Roger Billon.
D'après la police des frontières et les douanes américaines, l'afflux de migrants a chuté de près de 50% à la frontière sud des États-Unis ces derniers jours. Le secrétaire à la sécurité intérieure l'a annoncé lors de son passage à l'émission This Week de la chaîne ABC en comparant les données chiffrées disponibles avant l'expiration du titre 42 jeudi dernier.
Nous avons déjà expulsé des milliers de personnes qui sont arrivées à notre frontière sud. Nous mettons en application les lois en vigueur en matière d'immigration en vertu du titre 8 du Code migratoire des États-Unis.
M. Mayorkas a souligné que l'expansion des voies d'accès légales sous le président Joe Biden est inédite. Il a également rejeté les affirmations selon lesquelles les demandeurs d'asile sont systématiquement ignorés.
Ce que notre législation prévoit, c'est que tout individu doit utiliser les voies légales que nous mettons à sa disposition. S'il ne l'a pas fait, il devrait chercher à obtenir une aide dans l'un des pays qu'il a traversé et où il s'est vu refuser cette aide. Et s'il n'a fait ni l'un ni l'autre, il ne s'agit pas d'une interdiction d'asile, mais il se verra imposer des contingences plus difficiles à respecter.
Le député républicain Michael McCaul a déclaré à ABC qu'il était sceptique quant à la capacité des nouvelles politiques à décourager les entrées illégales aux États-Unis.
Je pense qu'il y a des caravanes qui progressent. Je pense que ces gens veulent toujours entrer. Le gouverneur de mon propre État a envoyé la garde nationale du Texas et des agents à la frontière pour stopper l'afflux. Mais oui, le fait est que les deux dernières années et demie parlent d'elles-mêmes. 5 millions de personnes sont entrées illégalement dans ce pays, dont 1,5 million ont réussi à s'enfuir. C'est intenable.
Les migrants sont souvent contraints de fuir après avoir été confrontés à des crimes horribles dans leur pays d'origine, affirme le professeur de droit Blaine Bouki.
Nous constatons des taux de violence extrêmement élevés et c'est vraiment la raison pour laquelle les gens poursuivent leur voyage pour se rendre dans un pays où ils peuvent trouver la sécurité et, dans de nombreux cas, retrouver leur famille.
Il y a de fortes chances que les nouvelles voies légales sur lesquelles mise l'administration Biden contribuent à décourager les traversées illégales, mais cela pourrait aussi aller dans l'autre sens si l'on ne s'attaque pas aux causes profondes, a averti l'analyste Peter Margulies.
Il s'agit des facteurs qui, dans le pays d'origine, par exemple en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras et au Salvador, amènent les gens à quitter leur pays. Il s'agit notamment des facteurs économiques, du changement climatique et de la menace de violence.
Les autorités américaines admettent qu'un afflux d'immigrants sans papier pourrait encore se matérialiser dans les jours à venir, même si des interdictions de séjour de 5 ans et des poursuites pénales sont désormais prévues pour ceux qui cherchent à défier la loi.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les vendredis à 16h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.